Les sept vies de Serge Reggiani par Olivier Ninge. Accompagnement musical Marc Evea et Clément Péfer. C'est une émission produite par atoutboutdechamp.com.
La vie c'est comme une dent. D'abord, on n'y a pas pensé. On s'est contenté de mâcher, et puis ça se gâte soudain. Ça vous fait mal, et on y tient, et on la soigne, et les soucis. Et pour qu'on soit vraiment guéri, il faut vous l'arracher, la vie.
Olivier Ninge, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre « La vie, c'est comme une dent ».
Oui, belle façon d'introduire notre émission sur les sept vies de Serge Reggiani que ce texte de Boris Vian.
Je rappelle que, passionné par la chanson française, vous participez depuis plusieurs années à des spectacles musicaux en tant qu'acteur-chanteur.
Oui. Et j'ai eu le plaisir de créer un spectacle musical qui nous intéresse particulièrement ici, intitulé « Hommage à Serge Reggiani, un comédien qui chante ».
Pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur ce spectacle, je leur conseille d'aller sur le site www.atoutboutdechamp.com. Olivier Ninge, je vous propose de continuer l'exploration des sept vies de Serge Reggiani.
Bien volontiers. Mais un petit rappel de ce que nous avons dit dans les anciennes émissions. Mmh. Serge est né le 2 mai 1922 à Reggio d'Emili, en Italie. Il est issu d'un milieu plutôt modeste, avec des parents tous les deux coiffeurs.
Sa première vie fut donc celle d'une enfance italienne.
Oui, et pour fuir le fascisme de Mussolini, il doit quitter l'Italie pour la France à l'âge de 8 ans. Et donc deuxième vie, celle d'un émigrant dans les années 1930 confronté à la xénophobie.
Finalement, la famille Reggiani ne restera pas très longtemps en Normandie.
En fait, au bout de quelques mois, la famille quitte Yvetot pour Paris, où Ferruccio, le père de Serge, va pouvoir ouvrir enfin un salon de coiffure au Faubourg Saint-Denis.
Oui, pour le jeune garçon Serge, c'est plutôt une bonne période.
Oui, c'est l'adolescence, il s'adonne au sport et se passionne pour la lecture. Mais il ne s'attarde pas vraiment aux choses scolaires, alors il se dirige vers un apprentissage de la coiffure.
Donc sa troisième vie, c'est celle d'apprenti coiffeur.
Oui, et il se rend compte très vite que devenir coiffeur n'est pas sa vocation. Alors il commence à faire de la figuration au théâtre de Mogador, puis au théâtre du Châtelet. Il prend goût à ce métier de comédien, entre dans un processus de formation et en moins d'un an, il obtient deux premiers prix d'interprétation et s'inscrit au Conservatoire National d'Art Dramatique.
Donc quatrième vie, celle de comédien couronné de succès.
Oui, tout à fait. Et en 1940, c'est la guerre, l'occupation. Alors il doit survivre en trouvant des petits rôles et surtout ne pas se faire embarquer par la STO, le service de travail obligatoire. Et en 1943, Léo Johannon va lui proposer son premier grand rôle au cinéma dans Le Carrefour des enfants perdus.
Si je comprends bien, il commence sa cinquième vie pour devenir l'un des acteurs les plus célèbres du cinéma français.
Oui, et il fait coup double. Il rencontre son premier grand rôle et sur le tournage, il rencontre sa première femme, la comédienne Jeannine Darcey. Alors commence leur vie de couple dans un contexte un peu compliqué, car c'est l'occupation. Fort heureusement, arrive la libération.
Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, Paris libéré. Pour Serge, comme pour tous les Français, c'est le grand soulagement.
Bah oui, déjà sur le plan familial, il peut épouser Jeannine et ils auront deux enfants, Stéphane qui est né en 1946 et Karine qui est née en 1951, deux enfants à qui il transmettra la fibre artistique. Puis, un autre événement important à cette période, ses parents retournent au pays après 15 ans d'absence, mais reviennent à Paris deux ans après.
Et oui, ça en dit long sur la... la dure réalité d'un immigrant. Mais Olivier Nunge, qu'en est-il de la vie professionnelle de Serge ?
Comme je vous l'indiquais dans notre dernière émission, sa quatrième vie de comédien et sa cinquième vie d'acteur de cinéma vont s'entremêler avec un côté, je dirais, boulimique. Je ne peux pas tout énumérer dans cette émission, alors je vais repérer avec vous les moments les plus significatifs.
Alors d'abord, citons Les Portes de la Nuit en 1946, réalisé par Marcel Carné à partir d'un scénario de Jacques Prévert.
C'est l'histoire d'une aventure amoureuse et tragique entre le jeune résistant Diego et la belle Malou, mal mariée à Georges. Yves Montand a le rôle de Diego et Serge joue le frère de Malou, Guy, un ancien collaborateur ayant dénoncé son ami Raymond.
Oui, encore un rôle de salaud.
Oui, et c'est peut-être en repensant à l'histoire tragique de la belle Malou qu'il mettra à son répertoire ce très beau texte d'Anne Sylvestre, La Montmariée.
Je vous propose d'en écouter une version tirée de votre spectacle, Hommage à Serge Reggiani, un comédien qui chante.
Mon marié, oh mon marié, quand ils t'ont trouvé si blanche et dorée, blonde, 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 mon marié, oh mon marié, quand ils t'ont trouvé noyé dans le courant entre tes draps de mousse, dans le courant les yeux fermés si douce comme un jardin de fleurs. Comme un jardin saccagé par l'orage, comme un jardin, comme une fleur sauvage, tu fuyais ton malheur entre deux eaux, entre deux eaux. Et j'étais là, moi, j'étais là, inutile et vain, avec mes deux mains, imbécile et froid, avec mes deux bras, avec tout mon corps qui regrette encore mon marié. Je t'aurais consolé, moi, mon marié, que j'aurais su t'aimer. Et tous les hommes qui sont là t'auraient ouvert portes et bras, tous auraient voulu empêcher cet irrémédiable péché. Toi si blonde, mon marié, toi si blonde, mal aimée. Mon marié, oh mon marié, quand tu t'es sauvé, si blanche et dorée, blonde, 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 mon marié, oh mon marié, quand tu as désespéré, ne pouvais-tu m'attendre, ne pouvais-tu à cet instant comprendre que je courais vers toi, que je courais comme vers une source, que je courais ignorant que ma course me conduisait là-bas. Au bord de l'eau, au bord de l'eau. Et je suis là, moi, je suis là, avec mes deux mains qui ne tiennent rien, ton image en moi qui ne s'en va pas, avec tout mon corps qui regrette encore. Mon marié, jamais je n'oublierai, moi, mon marié, que j'aurais pu t'aimer. Mon marié, oh mon marié, quand ils t'ont trouvé si blanche et dorée, blonde, 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 blonde.
Ah, quel beau texte. Bon, mais continuons. En 1947, Serge retrouve Prévert et Carné, notamment pour La Fleur de l'âge, qui fut un échec retentissant. Alors commencera à s'installer la réputation tenace pour Serge d'être un acteur qui porte malheur. En 1948, Serge retrouve l'Italie et ses origines pour tourner Les Amants de Vérone avec Anouk Aimée.
Avec ce rôle, il prouve au moins qu'il peut jouer autre chose que les salauds.
Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Des mauvaises langues lui prêtent une aventure avec Anouk Aimée et c'est pas sûr que Jeanne, sa femme, ait vraiment apprécié.
Mais tout ça ne nous regarde pas.
Vous avez raison, ça ne nous regarde pas. En 1948, arrive un document des plus précieux aux yeux de Serge.
Ah oui, lequel ?
Sa carte d'identité française. Ah, c'était quelque chose. Bien qu'il soit un artiste reconnu, il n'a obtenu la nationalité française qu'en 1948, soit 18 ans après son arrivée sur le sol français.
C'était donc important pour Serge.
Bien sûr, cela venait nourrir son besoin de reconnaissance. D'ailleurs, il se fera enterrer avec sa carte d'identité française.
Vous nous avez parlé du cinéma, mais qu'en est-il du théâtre ?
Alors, en 1949, il retourne au théâtre avec Les Justes de Camus. Il dira « C'est sur les planches, non sur un plateau, que j'aime le plus pratiquer mon art. » Il va interpréter Kalyaïev, un jeune terroriste qui va lancer une bombe dans le but d'assassiner le grand-duc Serge, pas lui, hein, qui gouverne la ville en despote afin de lutter contre la tyrannie. Ses principaux partenaires étaient Maria Cazares et Michel Bouquet, excusez-moi du peu.
Oui, effectivement, deux monstres sacrés.
Mais Serge n'était pas très content de sa prestation. Il avait ce qu'on appelle dans mon jargon de psy une forte injonction « sois parfait » et il mettait souvent la barre haute. Pourtant, l'auteur, Albert Camus, le félicitera pour son interprétation. En 1951, Serge s'essaie même à la mise en scène en réalisant et interprétant un Hamlet de William Shakespeare, comme chacun sait, dans une traduction de Marcel Pagnol au Festival d'art dramatique d'Angers. Et c'est un succès incontestable.
Oui, preuve s'il en est de ce touche-à-tout d'exception.
1952 est marqué par un événement cinématographique majeur. Le film de Jacques Becker, inspiré de l'histoire vraie d'Amélie Ellie, surnommé « Casque d'or ». C'est l'histoire d'un amour impossible marqué par le destin. Du coup de foudre à l'échafaud, « Casque d'or » est une tragédie qui se situe au temps de la Belle Époque. Serge Reggiani dans le rôle de Manda, avec celle qui restera toujours sa véritable et grande amie, Simone Signoret, dans le rôle de Casque d'or.
Oui, je confirme, pour moi, c'est vraiment un grand moment de cinéma. Nous arrivons à la fin de cette émission sur les 7 vies de Serge Reggiani. Alors dites-nous en quelques mots ce que vous allez aborder dans la prochaine émission.
Je vais continuer à raconter comment sa vie de chanteur et d'acteur s'entremêle sur fond de vie privée un peu compliquée. À très bientôt sur cette antenne.
Oui, à très bientôt, et je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent en savoir plus sur votre spectacle Hommage à Serge Reggiani, un comédien qui chante, et retrouver les émissions précédentes en allant sur le site www.atoutboutdechamp.com. C'était les 7 vies de Serge Reggiani par Olivier Ninge. Accompagnement musical, Marc Evea et Clément Péfert. C'était une émission produite par atoutboutdechamp.com.